OK, parfait. On va aller parler à Patrick Derry, analyste en politique publique, spécialisé en santé. On lui parle régulièrement au Québec maintenant. On va faire une petite analyse, non pas des personnalités de nos généraux, mais de leurs compétences professionnelles, des décisions qu'ils et elles ont prises. Et je parle bien sûr de Horacio Arruda et de Daniel Mécan, respectivement directeur national de la santé publique et ministre de la Santé. Salut, Patrick.
Salut.
Donc, commençons par Dr Arruda, parce qu'il y a un papier de la journaliste Martine Biron sur le site de Radio-Canada qui a piqué ta curiosité. Et pour toi, c'est un article qui en dit long, disons, sur le poids réel du Dr Arruda.
Oui, c'est pas le premier, d'ailleurs, mais c'est un exemple assez éloquent qui révèle encore une fois, je dirais, une certaine passivité de la réponse de la santé publique par rapport à la pandémie, hein. Dans l'article, par exemple, on apprend qu'à la fin janvier, les gouvernements de l'Ontario, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique, alertés par le risque de pandémie, commandent de l'équipement de protection des masques. Au Québec, on ne voyait pas d'urgence à ce moment et les premières commandes de masques sont arrivées seulement 2 à 3 semaines plus tard, le 19 février. C'est quand même un délai qui est assez important.
On a commandé, nous, les masques d'urgence, là, 2 à 3 semaines après l'Ontario, puis la Colombie-Britannique et l'Alberta, c'est ça?
Oui, eux, ils ont vu un risque que nous, on n'a pas vu.
Ouais.
Quand le premier cas de COVID a été détecté au Québec, c'est à la fin février, là, le 27, Dr Arruda, lui, était en Europe, il y avait une conférence à donner sur la légalisation du cannabis, puis après ça, il a pris quelques jours au Maroc. Quand il est revenu, le plan pour le confinement avait déjà été décidé par le premier ministre et ses conseillers politiques, donc pas par les gens de la santé publique, par le politique. Et je critique pas la décision, mais je souligne seulement que ça n'a pas été une décision de la santé publique, mais le politique a décidé qu'on pouvait plus attendre. Et c'est un peu aussi la même chose pour les masques. Quand Dr Arruda, il a passé des semaines à répéter que porter un masque pouvait être dangereux. On l'a entendu plusieurs fois dans les points de presse quotidiens. Alors que les preuves de son efficacité s'accumulaient, c'est devenu indéfendable sur le plan scientifique et sur le plan politique. Et le politique a décidé que le masque allait être une recommandée en dépit des objections répétées de Dr Arruda. Fait qu'on a un peu l'impression que la santé publique, à la place d'être en mode proactif, comme un peu ça a été le cas, par exemple, en Colombie-Britannique, on est en mode réactif. Et dans une pandémie, quand ça va vite, c'est pas idéal.
OK. Là, c'était le pot. Est-ce que Dr Arruda, à tes yeux, qu'est-ce qu'il a bien fait?
Ben, c'est un excellent communicateur. Je veux pas paraître excessivement sévère, mais c'est le but là, c'est on parle des compétences professionnelles dans une période de crise où tout va plus vite, de la capacité d'agir, de reconnaître l'urgence d'abord, d'agir de façon décisive puis de prendre les bonnes décisions puis après ça de pousser les autres à agir. Et là, bon, peut-être qu'il y a une situation particulière parce que nous, notre santé publique est pas totalement indépendante du politique, mais à plusieurs égards. Si on avait pris quelques décisions plus rapides que les autres, puis qu'on avait été capable de les faire appliquer, mais il semble qu'on était souvent en retard sur les mesures et en retard sur les résultats, puis en retard aussi sur la façon de les faire appliquer. T'sais, ça nous mène, par exemple, à la ministre de la Santé. Là, vendredi dernier, elle se fait demander en commission parlementaire, écoutez, Madame la ministre, c'est quand ça arrête les mouvements de personnel en CHSLD? T'sais. En Colombie-Britannique, on a arrêté ça à la fin mars. Au Québec, ça continue encore et on sait que c'est une source de contagion. Et la ministre répond qu'elle n'a pas de date précise.
Mais sais-tu à quoi ça me fait penser, Patrick, cette décision, cette position-là? C'est comme les masques, c'est comme l'équipement de protection personnelle il y a un mois et demi. On nous disait que, ben écoute, pas tout le monde qui a besoin d'un masque nécessairement. La vérité, c'est qu'on n'avait pas assez pour tout le monde et qu'on voulait rationner.
Là,
je pense que si on veut pas arrêter le mouvement de personnel parce qu'on sait que si on fait ça, ben, il va manquer de monde à certains endroits.
Oui, mais ça c'est penser à l'envers. Parce qu'à un moment donné, quand tu as un problème, il faut que tu arrêtes de trouver pourquoi ça marche pas. Il faut pas que tu avances les difficultés, elles argumentent d'eux-mêmes les difficultés. Il faut que tu trouves une façon de les contourner. Le masque en République tchèque, ils n'avaient pas, ils en ont fait. Je veux dire, on a du monde qui sont capables de servir d'une machine à coudre ici, là, c'est pas différent. Puis, pour le manque de personnel, là, puis le bris de service dans les CHSLD, en Colombie-Britannique, par exemple, un des problèmes, là, c'est les gens qui travaillent dans plusieurs établissements, puis bon, qui doivent joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des primes, ils ont augmenté le salaire, puis vous restez à une place. Là, après ça, il reste la question de la pénurie de personnel. On est dans une période où il y a des dizaines de milliers de Québécois qui sont en chômage forcé. Ils voudraient travailler, ils peuvent pas. Si tu manques de monde à un moment donné, là, mets-le à 50 $ l'heure, le salaire pour les préposés en CHSLD pendant la durée de la crise. Là, je serais assez surpris que tu manques de monde. Et si ça ne marche pas à 50, mets-le à 70, mets-le à 100. Mais ça, à un moment donné, c'est une question de vie ou de mort. Hein.
Toi, tu penses qu'à 50 $ de l'heure, on aurait beaucoup moins de problèmes de personnel dans nos CHSLD?
Ben, écoute, ça vaudrait. J'aurais commencé par l'essayer. Écoute, c'est doubler le salaire. Là. Puis il y a du monde qui veut le travailler présentement. C'est sûr que c'est risqué. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement intéressant d'y aller, mais à un moment donné, là, je vais mettre un extrême. Là, si tu mets à 1 000 de l'heure, là, il va y avoir du monde qui va vouloir y aller, puis il y a probablement des gens qui vont changer d'emploi aussi.
Écoute, ce que tu soulignes, c'est que, selon toi, Patrick Derry, il y a eu un manque de proactivité de la part des deux généraux, là, disons, avant la crise, là, Dr Arruda et Mme McCann. Puis tu veux faire, en parlant de proactivité, d'aller au-devant des événements, tu veux me parler d'un gars qui s'appelle Dominique Cardy.
Oui, ça, c'est intéressant. Ça, c'est le ministre de l'Éducation, pas de la Santé, au Nouveau-Brunswick. Le Nouveau-Brunswick, là, pour rappel, là, c'est une population à peu près comme la grande région de Québec, là, autour de 700 000 habitants, ou si on veut un peu plus que Lanaudière et les Laurentides. Dans la région de Québec, on a 1400 cas puis presque 100 morts. Au Nouveau-Brunswick, on a 120 cas en tout depuis le début. Aucun décès. Hier, il y avait un seul cas actif dans la province et zéro hospitalisation. Fait, qu'est-ce qui s'est passé? Là-bas, il y a quelqu'un qui a allumé, puis c'est le ministre de l'Éducation. Lui, quand il était en vacances, pendant les fêtes, il a vu un reportage sur des nouveaux cas de pneumonie en Chine, puis c'est quelqu'un qui était intéressé par les pandémies, même s'il ne travaillait pas à la santé publique, ça a attiré son attention. Puis il s'est mis à lire sur le sujet, il a parlé à des contacts qu'il y avait en Asie, puis plus ça allait, plus il devenait inquiet, surtout que l'information sortait de la Chine, qu'on sait que c'est pas un gouvernement très transparent, fait que ça voulait dire que c'était probablement plus grave. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à s'activer. Puis au moment où les responsables de la santé publique au Canada et au Québec, qui disaient qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, on est prêt, il n'y a pas de problème, lui, il était vraiment en mode panique. Et il a présenté un plan d'action d'une vingtaine de pages qui a fait valider par des gens qualifiés d'un médecin au premier ministre du Nouveau-Brunswick. Puis il a verbaliser ses inquiétudes. Et dans le plan, il disait, il faut faire attention aux porteurs asymptomatiques, c'est ceux qui ont causé tant de dégâts ici, encourager le télétravail, convertir les gymnases en centres de dépistage et isoler les établissements pour les aînés, entre autres. Le Nouveau-Brunswick n'a pas tout fait ça, mais il a présenté ce plan-là le 24 février. Pendant ce temps-là, notre directeur de la santé publique était en voyage. Et moi, ce que je trouve encore plus révélateur, c'est que ce monsieur-là, d'abord, la santé, c'était pas sa responsabilité.
Dominique Cardy, le ministre de l'Éducation de Nouveau-Brunswick.
Au Nouveau-Brunswick, c'est ça. Lui, il pourrait se féliciter de son bilan favorable, hein, puis dire, écoutez, là, c'est quand même formidable si on compare la situation aux autres provinces, puis tu sais, ça a bien été. Mais même lui, aujourd'hui, il y a des regrets de ne pas avoir agi plus vite. Ça, à mon sens, à moi, bien personnellement, là, c'est ça du leadership.
En même temps, écoute, ça commence à se calmer au Québec de ce qu'on voit. Puis, bon, on a des généraux qui nous guident à la bataille. T'es pas en train de suggérer là, qu'on devrait changer de général en plein milieu de la bataille?
Bien, moi, je pense qu'on devrait le faire, puis il y a des précédents historiques. D'abord, il y a des raisons pour ça, c'est que là, ça va mieux pour l'instant, mais ça fait pas deux mois que c'est en baisse. On a une baisse qui est assez récente, et ça veut pas dire que ça va reprendre, parce que historiquement, là, je me rappelle plus c'est quel, en Colombie-Britannique, en tout cas, bref, un responsable de la santé publique qui rappelait à juste titre, il n'y a pas d'exemple de pandémie où il n'y a pas eu de deuxième vague. Donc, c'est pas fini. Et, comme je disais, il y a des précédents en temps de guerre. Hein? Pendant la guerre de sécession, Abraham Lincoln a changé ses généraux un après l'autre jusqu'à temps qu'il arrive sur le général Grant, puis ça a été probablement la meilleure décision de la guerre. Plus récemment, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Franklin Roosevelt le fait. Le débarquement de Normandie, c'est une opération capitale. Il devait la donner à quelqu'un qui était un logisticien de carrière, qui était le général Marshall, puis c'était un homme immensément respecté. C'est lui qui a fait le plan de reconstruction de l'Europe après. Mais il a décidé de donner ça à Eisenhower. Pourquoi? Parce que Eisenhower avait de l'expérience sur le terrain, il avait combattu les Allemands, il savait c'était quoi, puis il avait montré ses succès. On en a une générale ici avec l'expérience de combat contre les pandémies, c'est Joanne Yu. C'est pas trop tard.
L'ancienne de Médecins sans frontières, là.
Exactement. Joanne Yu, ancienne présidente de Médecins sans frontières, qui a été sur le terrain pendant 25 ans à combattre des pandémies un peu partout sur la planète. Ça serait quelque chose à considérer. Puis là, je veux pas idéaliser une personne plutôt qu'une autre, mais là, on a la chance d'avoir quelqu'un. Tu sais, si t'as Wayne Gretzky qui est prêt à prendre les mises au jeu, là, même si c'est toi le premier centre, là, va à l'aile.
Attends. J'arrête de t'affouler parce que Philippe a quelque chose à dire.
Ben, je trouve ça intéressant, oui. Patrick, quand tu parles du ministre de l'Éducation du Nouveau-Brunswick, Dominique Cardy. Alors, lui, Il s'en va en Chine en décembre. Il constate que le feu est en train de prendre. Il revient puis il prend des mesures. Aux États-Unis, juste pour mettre ça en parallèle, le sénateur Richard Burr, lui, il a appris avant tout le monde qu'il y avait un gros problème potentiel pour les États-Unis avec ce qui se provoquait en Chine. Il se vante d'avoir écouté la télévision avec les nouvelles en provenance d'Asie régulièrement. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ça a été quoi son geste? Il a vendu ses actions avant que les marchés tombent. C'est comme quoi, pas tout le monde qui réagit de la même façon dans la vie.
Et messieurs, il a aussi dit à ses donateurs dans un cocktail de financement, vendez donc vos telles actions et achetez-en donc d'autres.
C'est ça.
La notion de service public est un petit peu différente. Hein? Mais l'autre chose, je dirais aussi, tu sais, ça serait peut-être le temps aussi de reléguer le politique puis tout ce qui concerne le contrôle du message au second plan. On a vu comment ça a interféré. Là, on a discuté encore aujourd'hui encore Santé Québec. Là, ils sortent les bonnes nouvelles sur le fil. Là. Ils sortent les tests, ils sortent gens qui ont été confirmés négatifs. Là.
Oui, puis il faut se réjouir de ça aussi, Patrick.
Ben oui, mais sauf que tu sais, il y a le reste aussi. Fait une autre idée, là, ce serait peut-être de former, d'inclure dans le cabinet ou dans une espèce de comité de crise ou un comité de guerre, en tout cas, des gens d'autres partis pour vraiment que la gestion de tout le côté politique soit écartée. Puis qu'on aille chercher des contributions de tout le monde parce que, écoutez, si jamais c'est fini, puis dans 3 semaines, on est dehors, puis c'est réglé, c'est parfait, ça va être fantastique, mais ça serait surprenant.
Bien, l'idée est lancée. Merci beaucoup, Patrick Derry.
Ça fait plaisir.